merci à Émilie et moi-même de m'avoir invité à participer et puis de me donner l'occasion de revenir à Casa. C'était toujours un plaisir. Merci à tous aussi, Fatma et tous les amis qui nous accueillent si gentiment. Alors, d'abord quelques mots sur l'anthropologie historique qui est apparue dans les années 70-80 au moment où l'on transportait Lévi-Strauss en brocéliande, pour reprendre le titre d'un article. Mais qu'est-ce que aujourd'hui l'anthropologie historique, qui s'en soucie? Il semble que actuellement peu s'emploie à théoriser ce concept ou cette approche, soit qu'il y ait un consensus un peu diffus, soit que l'intérêt soit retombé pour une réflexion théorique, même si nos disciplines se déclarent périodiquement en crise. Alors, plutôt que de faire un discours théorique, et on pourra éventuellement reprendre pour la discussion, plutôt que de faire donc un discours théorique au moment où les ethnologues désormais intègrent une dimension historique dans leur travail et où les historiens, du moins certains, pratiquent leur métier avec une sensibilité anthropologique, j'ai donc préféré adopter une démarche plus empiriste et vous proposer une observation, une lecture, une analyse d'un cas historique situé dans mon terrain qui est la Rome de l'époque moderne à la fin du XVIe siècle en particulier, pour prendre un cas précis. Alors je souhaiterais m'attacher à montrer comment est créé un pèlerinage dans l'espace romain à la fin du XVIe siècle, comment ce pèlerinage sacralise l'espace romain, un parcours, une procession qui délimite, qui dessine un portrait de ville. Comment cette promenade topographique définit un objet symbolique et comment cette image rejoint un projet politique urbain. Donc j'ai présenté une étude de terrain en historienne, un peu aventurée sur le terrain de l'ethnologue. Il s'agit d'étudier comment la pratique rituelle de ce qu'on appelle la visite aux sept églises de Rome est créée. Comment elle anticipe l'urbanisme du pape Sixte Quint, qui règne de 1585 à 1590, fin du XVIe. Et donc, c'est une même représentation de la ville. Entre image et réalité, quel est le rôle, quelle est l'action d'une représentation symbolique au service d'une politique urbanistique et quelles en sont les limites? Donc, l'utilisation d'un pèlerinage militant. Je vais parler en trois points. Traditionnellement, en France, on fait des plans en trois parties. Donc, je pars de la pratique, un premier point, un premier niveau d'analyse, ça sera la pratique de ce pèlerinage de cette église. Le deuxième niveau, ça sera la topographie symbolique, pour arriver au troisième niveau, l'utilisation de ce rituel dans la stratégie politique, donc l'image de Rome et la politique urbaine de ce pape de la fin du XVIe siècle. Donc, le premier point, un nouveau rituel dans l'espace romain, dans Rome, qui est la ville du pèlerinage. Et il y a des problèmes qui sont posés, bien entendu, en termes d'accueil, de déplacement, d'assistance aux pèlerins et aux Romains qui suivent le pèlerinage. Il s'agit de disposer de lieux pour les rassemblements de foule. C'est la première image que je voudrais vous montrer. Une image, ça n'ouvre pas. Ah, non, non, ça y est. Voilà. Ça, c'est une image de l'époque de la place Saint-Pierre avec la basilique Saint-Pierre. La forme avant les transformations de la coupole plus moderne, et donc les foules qui sont sur la place, donc il faut des espaces importants. Ici, une autre image où vous voyez ce rassemblement pour les bénédictions pontificales. Et ce rituel est un inventaire topographique qui dessine un portrait de la ville. Alors, de quoi s'agit-il? Le Jeudi Gras, c'est donc en période du carnaval. Les pères de l'oratoire, c'est-à-dire un ordre religieux nouveau, entraînent les Romains dans un territoire qui est marqué par un aspect champêtre. Les sources utilisent de manière quasiment équivalente les termes de visite, d'itinéraire, de pèlerinage, de voyage ou de circuit. Et la terminologie est tout à fait importante, mais on passe de l'un à l'autre, et selon les textes, selon les images, selon les descriptions. Les sept étapes prévues correspondent aux sept basiliques de Rome. On commence la veille au soir, c'est souvent un temps de veille. On commence ici à l'église de la Vallicelliana. On voit avec la flèche? Oui. Et où est le siège de cette congrégation des oratoriens? Et puis le lendemain matin, on commence ici le lendemain matin à Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre. Ensuite, on fait toute une itinérance ici, de ce côté du Tibre. Voilà. Ensuite, on traverse à la hauteur... Je ne suis pas très habile avec ce truc-là. Voilà, on traverse à la hauteur de l'île Tibérine, ici. On fait toute une pérégrination ici, dans la ville basse, près du Tibre, qui était un lieu de marché dans l'Antiquité. On monte sur la colline, ici. Et puis, on va traverser... On va traverser tout cet espace ici. Ici, c'est l'espace du Forum romain. On traverse ici du côté du Testaccio, qui était l'ancien marché. Et pour aller hors, on passe les murs. Ici, c'est la représentation des murs. On passe hors les murs pour aller dans un territoire de campagne, bordé par des vignes, des prés. Et pendant tout ce parcours, on chante des litanies avec le soutien d'un accompagnement musical. Ah, ici. Et puis, on va jusqu'à San Sebastiano, ici. On est en pleine campagne. Et ensuite, on va retourner pour entrer dans la ville. Et après, là, ça fait quand même un itinéraire qui est assez long. C'est la fin de la matinée. Et donc, c'est un moment de repos, de refezione, comme on dit en italien, pour un repos et un repas. Et cette étape a lieu le plus souvent dans la villa de la famille Mattei, sur une colline, sur le Célius. Et ensuite, on redescend la colline, on descend vers, on est repassé à l'intérieur, on repasse à San Giovanni in Laterano, on sort de nouveau, on réentre ici à Santa Croce in Jérusalem. Ensuite, on a tout un itinéraire qui longe les murs, on ressort encore une fois ici, et puis... La fin de la journée, on arrive en une démarche montante sur la colline de l'Esquilin pour arriver ici à la basilique de Sainte-Marie-Majeure qui est sur la colline du Célius en une espèce de crescendo final en fin de journée, au moment où la nuit tombe. Donc, la route qui a été suivie, c'est tout un parcours aux marges de la Rome de la fin du XVIe siècle. Et je vous ai fait remarquer que plusieurs fois, on entre, on sort du périmètre urbain, mais en restant assez souvent près des murs. Les zones traversées au cours de cette longue journée de marche sont des zones peu habitées, comme on dit, des solitudes ou des campagnes. Et donc, le parcours circonscrit un territoire nouveau, jusqu'alors peu fréquenté. Des images, des gravures de temps représentent cette pérégrination. Par exemple, ici, l'image gravée de l'Afrérie de 1575, qui est une sorte de prototype. Ces images sont extrêmement répétitives. Il y a toute une série qui est créée. Les suivantes, sur Ravanel, en 1589, mais bien d'autres aussi, ensuite, jusqu'au XIXe siècle. Et ça représente une forme de la ville. Alors, je vous fais remarquer que ces illustrations ne représentent pas du tout le tissu urbain construit. Il n'y a pas de monument qui soit représenté. Les collines sont complètement aplaties. C'est vraiment la ville du pèlerinage. Alors, vous voyez ce qui est représenté? C'est le fleuve ici, les murs qui sont représentés. Et puis, c'est ce qui est représenté, c'est la démarche des pèlerins. Donc, ce qui est important, c'est le cheminement. Et les églises, les différentes basiliques qui sont représentées, sont toutes orientées face aux spectateurs. Il s'agit de bien montrer que ce sont telle et telle basilique, et peu importe l'orientation réaliste, on doit les voir. C'est ça qui est important. Et ces images sont reprises jusqu'à... Ah, non, c'est pas la bonne image, pardon. Je croyais que ça suivait. Attendez, si ça... Je ne suis pas très habile. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Ils se sont mis dans le désordre. Alors, bon. Bon, tant pis. C'était pour vous montrer qu'au XVIIIe siècle, la même image est reprise, mais encore plus, devient encore plus abstraite. C'est un schéma de plus en plus abstrait où la ville a tendance à disparaître. Cette marche est une procession donc régulièrement reprise chaque année. Et ce pèlerinage de cette église apparaît comme l'exécution d'un rite. On accomplit un exploit qui est d'abord une performance physique, parce qu'on fait un certain nombre de kilomètres pendant toute la journée, mais c'est aussi un exploit symbolique et spirituel, car on suit un itinéraire sacré qui longe des murs, passe des frontières, s'arrête en des étapes situées près des portes le plus souvent, où se déroulent des cérémonies liturgiques avec messe et communion, ou mystiques, avec des sermons, des méditations, des chants. Le parcours est un itinéraire orienté avec un début, une fin, un sens. Au cours de cet itinéraire, on rappelle les différentes vertus fondamentales et on soutient l'enthousiasme des pèlerins par les chants, par la musique, par les lectures, par les sermons. Ce voyage accompli a un sens et l'ordre des étapes est fixé. C'est un circuit qui est parcouru, je vous fais remarquer par rapport à ce qu'on a vu hier, c'est le même sens. On parcourt dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le temps cérémoniel, donc, s'inverse par rapport au temps quotidien. Une lecture chrétienne pourrait dire que dans ces marches, cheminant de la droite vers la gauche, c'est l'illustration de ce qui se passe pendant la liturgie de la messe, où on sort par le côté de l'évangile et on rentre par celui de l'épître. Cette démarche pérégrine manifeste donc une maîtrise de l'espace et un triomphe du corps. La procession, pratique vénérante incantatoire, est une prise de possession d'un espace, à la fois puissance sacrale et de sacralisation de ce territoire. On définit le périmètre d'un espace-temps parcouru en une journée, ce qui fait référence aussi à certaines unités de mesure traditionnelles de l'espace. Et alors, on peut se demander, est-ce que c'est la sacralisation de l'espace romain ou d'un espace ? Puisque cet itinéraire ne prend pas en compte la totalité de l'espace de la ville, même s'il enveloppe, comme on a vu, une aire assez vaste. Cette ampleur et le fait que le parcours sorte hors les murs de la cité est une chose assez exceptionnelle dans ces processions et marque le caractère de nouveauté de cette procession. Toute démarche pérégrine est une quête du sacré, des lieux sacrés, et dans la hiérarchie sacrale, le lieu éminent est celui qui est situé le plus haut géographiquement. De là s'explique le caractère d'approche montante. On a vu hier, quand on est allé voir les saints, il y a souvent une montée pour arriver au saint. Et donc là aussi, on retrouve cette démarche montante dans ce pèlerinage et la place majeure accordée aux collines, colline de la pause du déjeuner communautaire et colline de la fin du pèlerinage où on arrive à la basilique de Sainte-Marie Majeure. Et le choix de ces différentes collines n'est pas du tout indifférent. Le parcours de cette procession est incantatoire. On décrit une sorte de circumambulation qui forme comme un cercle magique dont la fonction de protection, de purification est évidente et s'impose. De tels rites ont été mis en valeur pour la Rome antique, notamment pour une fête qui s'appelait la fête du Septimontium, ce qui vous montre bien encore le chiffre 7. Et cette fête se déroulait à l'époque archaïque dans la zone des collines de Rome, à plus ou moins la même zone que ce pèlerinage aux sept églises. Et des historiens de l'Antiquité ont souligné comment cette fête était une fête d'abord des habitants des collines à l'époque archaïque, et ensuite, au temps de l'Empire romain, ça devient une fête de toute la communauté romaine qui se retrouve une fois par an pour exécuter cette circumambulation. Les limites de cet espace devenu sacré par le rite exécuté sont des lieux sacrés en eux-mêmes, puisque ce sont les grandes basiliques romaines qui sont visitées. La procession retrouve et ressuscite une géographie sacrée, ancienne, et son emprise au sol. Ici, elle ne se limite pas, comme parfois, à une réappropriation d'un passé aux limites géographiques bien définies, mais en franchissant les portes, elle nie le passé qui est ainsi rappelé. On franchit les murailles, comme pour mieux les détruire, en une sorte de rite de passage qui est aussi un acte de transgression. L'aire parcourue est nouvelle et les limites géographiques anciennes de la cité ne sont retrouvées que pour être mieux dépassées. Ainsi, le territoire est-il repéré et balisé ? Le circuit cerne un espace sacral, une aire sacrée. Mais le territoire qui est ainsi encerclé sur un mode conjuratoire est un territoire qui est à peu près vide à ce moment-là. Ce lieu est disponible, offert à la conquête, à l'installation, à la colonisation. L'utilisation nouvelle de cet espace le fait entrer dans les usages urbains et de ce fait dans le territoire urbain. De ce nouveau territoire approprié, on marque les frontières. La Rome chrétienne remplace la Rome antique et païenne en une refondation chrétienne. C'est un processus de requalification du territoire qui est marqué par ce rituel. Le rite marque donc une réappropriation spatiale Et je pourrais reprendre des études qui ont été faites autrefois par Ernesto De Martino, qui montraient très bien ces rituels de purification des territoires. Cette procession peut être envisagée comme une thérapie, une action de grâce, un geste de fidélité et une assurance sur le lendemain. Elle est un enracinement dans le temps comme elle l'est dans l'espace. Le cortège est ordonné. Il représente et il construit le lien social. Lors de ce parcours dévotionnel, on marche, on prie, on écoute, on mange, on communie, ensemble. Ainsi se crée un être collectif, une communauté sacrale, éphémère certes, mais qui gardera en mémoire cette existence d'une journée et qui se doit de la conserver pour maintenir l'efficacité du rite. Ceux qui accomplissent le pèlerinage forment pour ce voyage une société pèlerine avec ses hiérarchies et son organisation. Je ne vais pas reprendre l'analyse de ces sociétés pèlerines comme l'avait bien fait l'historien Alphonse Dupron il y a quelques années. Mais c'est une présence communautaire, hiérarchique, qui est nécessaire pour cet acte pèlerin, qui n'est pas une errance, c'est une marche ensemble dont la gestuaire est toute collective, qui est une consommation matérielle et sacrale. Cette marche de pérégrination au sept églises est l'objet d'une réglementation extrêmement minutieuse, d'interdits rigoureux, contrôlés par les ordres nouveaux et par l'État. C'est le triomphe de l'ordre par rapport au désordre. Il y a un ordre de la marche, un ordre des préséances, qui est très bien exprimé lors de la pause du déjeuner, et qui est pris en commun en une forme de rite d'agrégation de la communauté urbaine et pèlerine. Et il y a des images, une image par exemple, un dessin que j'ai retrouvé dans des archives de cette fameuse congrégation des pères de l'oratoire, et qui représente, dans, il y a une sorte d'exèdre qui est dans le jardin de cette villa, et les dessins, c'est une espèce de plantable qui représente le quadrillage de cet espace où on va installer les personnes pour le déjeuner. On a pu compter le nombre de places, il peut entrer environ 3400 places. Et on raconte que parfois, les gens sont debout, attendent, il n'y a pas assez de places pour les pèlerins qui prennent leur déjeuner. C'est un banquet. La nourriture est répartie de façon égalitaire, et s'il reste quelque chose, ça sera porté le soir aux prisons. Alors, bien sûr, le menu est frugal, on mange du pain, on mange du fromage, mais ce qui est important, c'est qu'on doit se nourrir ensemble, pas vraiment festoyer, mais c'est quand même un festin, un banquet communautaire, alors que je vous rappelle, c'est le moment du carnaval, et dans la ville basse, on festoie et on s'adonne, comme on dit, aux débauches carnavalesques. L'organisation de cette étape est un chef-d'œuvre de la logistique, et de plus en plus, au fur et à mesure que se développe la pratique de ce pèlerinage, et que les pèlerins sont de plus en plus nombreux, il faudra, on voit dans des documents dans les archives, il faut compter plus de 10 jours pour arriver à mettre en place toute l'organisation technique, logistique de cette journée. En effet, ce pèlerinage prend très vite un grand essor, connaît un très grand succès. Ce n'est pas le moment ici de faire une analyse précise de l'histoire de ce pèlerinage, mais je veux simplement dire que la conjoncture historique fait qu'il y a un épanouissement de cette pratique qui devient très vite une tradition. Et pour remettre dans le contexte, milieu du XVIe siècle, c'est la fin des grands cortèges carnavalesques qui se déployaient au temps de la domination municipale à Rome, et le dernier grand cortège, c'est 1545, avec le défilé de toutes les corporations et de tous les quartiers. Désormais, c'en est fini de ces grandes fêtes profanes, régulièrement présidées d'ailleurs par le souverain pontife ou placées sous son patronage. En revanche, les grands cortèges, je n'ai pas dit que le carnaval disparaît, hein, mais ce sont les cortèges qui disparaissent. En revanche, les grands cortèges qui traversent l'espace urbain, ce sont les processions pontificales. Ah, voilà d'autres images, je vous disais, ces images sérielles de l'ordre, pardon, c'est un peu dérangé. Mais pour vous montrer la reprise de ces images qui se copient toutes les unes les autres. Et ça, c'est la fameuse image du 18e siècle, où vous voyez ici, les différentes basiliques sont représentées. À l'époque, elles sont devenues neuf. Mais on ne voit plus du tout l'image de la ville. C'est simplement les basiliques. Alors ici, c'est pour vous montrer les grands rassemblements de foule. Et à l'époque de Sixte Quint, ça, c'est la grande cérémonie organisée pour son couronnement sur la place Saint-Pierre. Le couronnement qui se fait ici, à l'extérieur, dans un petit édicule construit pour l'occasion, en présence de la foule qui est rassemblée. Ici, ah non, ça c'est tout noir, on n'y voit rien. Ça, ce sont des processions religieuses. Par exemple, le transfert du corps d'un pape sanctifié à l'époque qui est porté à la basilique de Sainte-Marie-Majeure, qui est une très grande basilique qu'on retrouve dans les processions de cette époque-là. Alors, où est celle que je voulais vous montrer du grand cortège traditionnel du... voilà, ça s'est mis dans le désordre, pardon. Ici, je vous parlais de ces grandes liturgies en cortège du souverain pontife. Ici, c'est l'image toujours de ce pape Sixte Quint pour vous montrer l'époque. C'est une fresque du Salone Sistine de la bibliothèque du Vatican. Très belle en couleurs, avec beaucoup de couleurs rouges et blanches. Et vous voyez cette procession qui circule en forme de serpent dans l'espace urbain. C'est le pape qui a été élu, qui est couronné. Et quelques jours après, il va en cortège, avec tous les corps constitués de la ville et de la curie romaine, prendre possession d'une part de la ville, pouvoir politique, mais également de l'évêché de Rome, puisque le pape est l'évêque de Rome, à San Giovanni in Laterano, donc près des murs lui aussi, et il va traverser tout l'espace urbain. Donc une traversée, mais qui n'est pas la même traversée que celle dont je vous parlais pour le pèlerinage aux sept églises. Ici, c'est une traversée d'ouest en est, alors que le pèlerinage aux sept églises est un circuit. Donc, à cette époque-là, un espace cérémoniel et l'espace cérémoniel est renouvelé. Je reviens donc à cette procession aux sept églises qui est créée par Saint Philippe Néri, qui sera canonisé par la suite. Au début, c'est dans les années 1552-1553, c'est 25-30 personnes, mais très vite, le succès vient. Ce qui n'est pas sans susciter les craintes des autorités, en particulier du cardinal vicaire de Rome, qui dénonce les risques que fait courir cette secte. Et le mot de secte est employé à l'époque pour cette congrégation qui a créé ce pèlerinage. Et ça devient extrêmement grave quand on voit que 2000 puis 3000 personnes participent à cette procession. Et en même temps, il y a des oppositions entre les différentes familles romaines contre le pape. Donc ça, c'est tout un jeu interne. Résultat, la situation est complètement conflictuelle, mais ça va se calmer lorsque le fameux cardinal le plus remonté contre ce pèlerinage va mourir. Donc les choses se tassent. Finalement, les papes s'intéressent de très près à ce pèlerinage ou cette église jusqu'en 1571, quand le pape Pie V fait en personne le pèlerinage aux sept églises, et il utilise ce pèlerinage. Je trouve que c'est très important. Hier, on a parlé à propos de la Bretagne, justement, de l'utilisation des pèlerinages. Et ici, le pape utilise comme un acte propitiatoire dans sa lutte contre les Turcs, au moment où il prépare ce qui sera la grande expédition qui s'achèvera avec la bataille de Lépante le 7 octobre 1571, bataille navale de Lépante, qui est en fait une victoire des chrétiens et qui donne la maîtrise de la Méditerranée aux chrétiens contre les Turcs musulmans. Cette visite aux sept églises, donc promue par le saint Philippe Néri, devient une pratique rituelle qui va se dérouler régulièrement désormais, tous les ans, et on comptera jusqu'à plus de 4000 pèlerins. Alors c'est particulièrement important lors des années saintes, c'est-à-dire tous les 25 ans, où des pèlerins viennent à Rome, extrêmement nombreux. En 1600, on dit que 600 000 pèlerins ont été accueillis pendant toute l'année sainte. Et chaque année, donc, une foule importante parcourt ce long chemin, et on ne manque pas de citer les personnalités qui sont présentes. C'est seulement lors d'événements exceptionnels que le pèlerinage n'a pas lieu, soit qu'il fasse vraiment très froid, soit une épidémie de peste, soit la mort du souverain pontife. Et le nombre devient tellement important qu'on va finir par faire payer des billets pour recevoir le déjeuner de la collation de la halte de midi. Et ce pèlerinage va se maintenir dans les mêmes formes et le même jour de l'année jusqu'en 1796. C'est donc l'image d'une communauté urbaine tout entière mobilisée, entraînée à la périphérie de la ville, hors du territoire de sa vie quotidienne, pour une visite qui est un voyage collectif, en un jour qui est celui de la liesse carnavalesque populaire au centre, dans la ville basse. Société du pèlerinage, entraînée pour accomplir une démarche purifiante dans un territoire disponible, rendu propice par ce rituel. Ce parcours dessine un portrait de la ville de Rome et très vite sont publiés des guides, des livres, des itinéraires qui vont rappeler l'ordre rituel du cérémonial. C'est un parcours à la fois géographique et spirituel. Les textes sont illustrés et présentent le parcours, l'ordre des étapes, les gestes à accomplir, les paroles à prononcer, les chants à reprendre en commun sur le chemin ou lors des étapes. Et ces livres évoquent les différents monuments rencontrés, les églises visitées. Ça entre dans la catégorie des itinéraires ou des guides de voyage, qui sont des guides au départ pour les pèlerins et qui deviennent ensuite des guides pour tous les voyageurs nombreux à Rome. Donc ça s'intègre dans une longue tradition de ces itinéraires. Ces livres connaissent un très grand succès au moment où se développe le pèlerinage à Rome et où, au détriment du pèlerinage qui était à Jérusalem, qui devient beaucoup moins important pour les chrétiens. Alors, se manifeste le souci et la volonté de représenter la ville et la nécessité de donner une certaine image de l'espace urbain. La ville est alors volontiers définie comme un parcours, avec ses étapes obligées, ses hauts lieux religieux, politiques et culturels. Rome est présentée sous une forme sacrée. Rome est la ville du pèlerinage. Elle est considérée comme une ville sainte, où la dévotion est la fonction dominante, comme l'attestent bien ces gravures dont je vous ai parlé et montré. Alors, après avoir vu la pratique et la topographie, passons à la topographie symbolique. C'est tout d'abord l'image du monde chrétien qui est donnée à voir. Le parcours accompli représente symboliquement le pouvoir de Rome sur la chrétienté universelle. En effet, cette visite à cette église figure l'image du monde chrétien. Rome est dite « caput mundi », c'est-à-dire « capitale du monde », et représente la chrétienté tout entière. Quand on fait cette visite, on accomplit symboliquement le tour de l'univers chrétien en passant par les quatre grandes églises patriarcales. Ainsi, par exemple, la basilique Saint-Pierre représente le patriarcat de Constantinople, la basilique Saint-Paul représente celui d'Alexandrie, la basilique Saint-Laurent représente celui de Jérusalem et Sainte-Marie-Majeure représente celui d'Antioche. À quoi il faut ajouter Saint-Jean de Latran, où l'on rencontre le pasteur suprême et qui est en fait le résumé de l'ensemble. Et pour aboutir au chiffre sacramentel de 7, on y ajoute Santa Croce in Jérusalem et San Sebastiano, soit que ce soit trouvé sur le chemin, soit qu'on ait voulu retrouver l'idée des sept églises d'Asie, soit qu'on reprenne aussi l'idée des sept églises de Rome, mais on retrouve, comme on le disait hier, toujours ce chiffre sacré de 7. La géographie historique se fait donc symbolique. L'approche est celle d'une terre promise et les portes franchies sont celles de la Nouvelle Jérusalem, où l'on entre en une procession qui n'est pas sans évoquer l'entrée de Jésus à Jérusalem, porte prototype de toutes les entrées dans les villes. Ensuite, on peut remarquer que l'encadrement dévotionnel du parcours de cette église est structuré avec des références précises à la Passion et c'est l'évocation explicite du chemin de croix qui est anticipé et qui évoque 40 jours plus tôt ce chemin de croix qui sera exécuté pendant la Semaine Sainte. Ce geste donc du chemin de croix accompli en période carnavalesque inverse le temps, abolit le temps. Ainsi, de la Chiesa Nuova dont on partait la veille au soir, on refait le chemin du Cénacle au jardin de Gethsémani, de Saint-Pierre à Saint-Paul. C'est l'évocation de la sueur de sang dans le jardin des Oliviers et le voyage à la maison de Sainte-Anne. De Saint-Paul à Saint-Sébastien, c'est le trajet d'Anne à Caïpha et le moment de la flagellation. De Saint-Sébastien jusqu'au lieu du déjeuner, c'est la route de Caïpha à la maison de Pilate et l'épisode de la couronne d'épines. Puis en direction de Saint-Jean-de-Latran, on revoit toute la Passion en une longue prière alternée récitée. Puis, de Saint-Jean à Santa Croce de Jérusalem, c'est le passage de chez Pilate à Hérode. De Santa Croce à San Lorenzo, on rappelle le retour du Christ d'Hérode à Pilate et la crucifixion. Et enfin, de San Lorenzo à Santa Maria Maggiore, c'est le parcours final du prétoire au calvaire. Et c'est explicitement et volontairement repris. Donc chacun et les guides qui sont publiés le rappellent que chacun doit bien savoir que accomplissant ce chemin, il accomplit le chemin symbolique à Jérusalem. Ce parcours orienté est donc un parcours en même temps mental et spirituel, parallèle, concomitant au parcours réel et géographique. Et donc ce parcours fait référence à une topographie sacrée. Rome se substitue, s'identifie alors à Jérusalem, ville originelle, centre du monde, ville mère enserrant le Golgotha. La réalité matérielle du parcours romain rejoint la signification spirituelle du rhissus sacré et l'image de Rome est alors identifiée par ce parcours sacré à l'image de Jérusalem, répondant à un besoin, à une nécessité. En effet, c'est le temps du carnaval et le rituel du pèlerinage qui trouve son aboutissement sur la ville haute se doit d'inverser les valeurs alors dominantes dans la ville basse pour s'en démarquer et pour les combattre en s'y opposant. Je vous ferai remarquer qu'à Rome, le carnaval n'a jamais été interdit par le pape. Et le pape et les ordres religieux n'interdisent pas, c'est une stratégie beaucoup plus subtile, puisqu'on contourne le carnaval et on crée des rituels concurrents. Alors pourquoi cette invention, cette création d'un rite nouveau dans l'espace romain vers le milieu du XVIe siècle, pourquoi sous cette forme d'un pèlerinage aboutissant à une exaltation mariale, une exaltation de la Vierge, pourquoi cette pratique rituelle et symbolique porte-t-elle un tel succès? Alors on peut définir ce rite comme une pratique militante, c'est la lutte de Jérusalem contre Babylone. Après le Concile de Trente qui se clôt en 1563, donc dans cette fin du XVIe siècle, c'est la mise en œuvre de la réforme catholique et le développement d'un nouvel humanisme chrétien. La réforme catholique cherche la conquête des âmes pour faire leur salut, et ce pèlerinage, c'est la recherche aussi des indulgences pour assurer son salut dans l'éternité. Donc la réforme catholique cherche à conquérir les âmes en une approche sensible des atmosphères historiques et les souvenirs de la Rome chrétienne des premiers temps. Ce sont les lieux témoins du premier christianisme qui sont visités, en même temps que les visites aux catacombes, aux tombes des martyrs et aux grandes basiliques. Et c'est l'exaltation du culte de la Vierge. Au contraire de l'homme de la Renaissance qui était plutôt guindé sur des modèles antiques, cette nouvelle génération manifeste une émotion devant la nature, par exemple, ce dont témoignent ces promenades, ces pérégrinations dans des zones peu habitées, dans des jardins, des zones de jardins, de campagne. La réforme catholique s'adresse aux masses en prônant une religion d'amour fondée, comme on dit à l'époque, sur un optimisme chrétien bien fait pour rassurer le croyant et faire son salut par la joie. C'est suivre la voie de Dieu. Et Philippe Néri, l'initiateur donc de ce pèlerinage, reprend l'antique pérégrination traditionnelle et pour éloigner les masses de la tentation du carnaval et rénover une dévotion qui est une pénitence. C'est un peu pénible, c'est un peu dur de faire toute cette longue journée de marche, mais en même temps ça se présente comme une récréation, un avant-goût du bonheur, de la béatitude éternelle que l'on s'imagine être celle du paradis. Ainsi, on définit une topographie du salut. Cette création d'une tradition populaire est celle d'une église militante et en marche. Le territoire traversé est représenté comme un espace réel et mystique. La procession, donc, qui tourne dans le sens inverse des aiguilles du montre, inverse le carnaval qui se déroule dans la ville. C'est donc un retour aux origines pour une nouvelle naissance, pour une refondation. Et 40 jours plus tard, le temps sera remis dans l'autre sens pendant la semaine sainte, lorsque on exécutera le chemin de croix qui traditionnellement se déroule à l'intérieur du Colisée. En cette journée, la ville basse est donc abandonnée au royaume du carnaval, tandis que les collines voient le triomphe du christianisme. L'image de Jérusalem domine celle de Babylone pour le culter. Et il n'est pas indifférent que le pape, dont le soutien au pèlerinage va jusqu'à lui consacrer une bulle en 1586, où il est question du pèlerinage dans et hors les murs, soit ce pape Sixte Quint, qui est l'agent de la grande rénovation spirituelle, politique, urbaine de Rome, et le promoteur d'un plan régulateur de la ville. En effet, sa stratégie, c'est de bien reprendre en main le pouvoir politique en une centralisation du pouvoir, de marquer la fonction majeure de la capitale d'un État territorial et de l'Église universelle. Et c'est grâce aux aménagements qu'il offre au peuple romain et aux pèlerins la facilité de circuler dans cet espace du pèlerinage. Alors j'arrive au troisième point qui sera plus bref, c'est l'utilisation de ce pèlerinage pour une image de la Rome et de Sixte Quint et au service de sa politique urbaine. La visite de cette église dans la représentation urbaine qu'elle propose participe donc à la stratégie urbanistique du pape. Ce franciscain, très attaché à son ordre, est un pape volontaire pragmatique. Il est conscient de l'insuffisance des infrastructures dans cette ville qui a 100 000 habitants et il a le souci de l'embellir comme capitale de la catholicité qu'il veut triomphante et siège d'un état pontifical indiscuté. Il arrive au pontificat suprême en un moment où domine le souci de sécurité, de remise en ordre spatiale politique. C'est le temps de la réorganisation politique, de la centralisation du pouvoir pontifical, notamment contre le pouvoir municipal, tandis qu'à l'extérieur, dans les autres pays, s'épanouissent les États territoriaux, les États nationaux. Sur le plan urbain, le pape Sixte Quint va opérer ce qu'on a qualifié de croisade urbanistique. Je vous rappelle que je vous fais remarquer qu'il y a un vocabulaire religieux qui est en permanence utilisé aussi pour une stratégie politique. Et d'ailleurs, Sixte Quint est un pape très habile en termes de communication, ce qui est un peu un anachronisme, mais il récupère à son profit en fait des initiatives qui avaient déjà été lancées par ses prédécesseurs et il s'arrange pour faire connaître son activité. Et ces grandes fresques, comme par exemple celle que vous voyez ici, sont peintes sur son ordre pour représenter donc les hauts faits de son pontificat. Là, ce sont les rituels, mais il y a aussi tout ce salon qui est décoré avec des magnifiques peintures qui représentent toutes ces grandes activités, l'assèchement des marais pontins, les aqueducs, enfin toutes ces grandes activités religieuses et politique ou économique. Alors, il va s'occuper de faire une fondation d'une ville haute par rapport à la ville basse et en même temps, il va s'occuper d'opérer une rupture de l'enfermement à l'intérieur des murailles, ce qui démontre la vitalité d'une ville en pleine expansion et en opposition par rapport au passé. Et c'est bien d'une logique de parcours qui s'impose. Sixte Quint utilise ce rituel qui est désormais établi de pèlerinage aux sept églises car il convient très bien à ses objectifs majeurs. D'une part, d'offrir un cheminement aisé aux pèlerins pour l'accès aux grandes basiliques, et en même temps ce qui permettra le transport et le trafic des marchandises dans la ville, d'assurer une circulation cohérente, harmonieuse, et donc d'attirer la population vers la ville haute et de l'y installer. Donc c'est dans ce but que le pape Sixte Quint entreprend de grands travaux. En particulier, il va créer un grand aqueduc pour amener ce qu'on appelle l'Acqua Felice, qui prend son nom puisqu'il s'appelle Félix. Et il faut remarquer que ce sont toujours des repères sur des lieux sacrés. Cette ville nouvelle est donc une fondation et définie par un cardo et un decumanus. Le cardo, c'est est-ouest, ce qu'on a appelé la Strada Felice du nom de ce pape, et le decumanus qui s'appelle la Via Pia, toujours un vocabulaire religieux. Et centré sur cette basilique de Sainte-Marie-Majeure, Voilà, donc la grande Via Felice qui traverse comme ça, et puis l'autre qui traverse comme ça, en formant une croix. Et au centre, c'est une grande place organisée autour de la basilique de Sainte-Marie-Majeure. Et il y avait encore des projets de relier des grandes rues entre elles, ici, entre ces basiliques, mais son pontificat est un peu bref et il n'aura pas le temps de mener à son terme tous les travaux projetés. Opérant donc une sacralisation du territoire urbain, cette nouvelle fondation permet de commémorer le pèlerinage de cette église et de créer ce qu'on a appelé une nouvelle Jérusalem contre Babylone, cette ville basse qui est la ville donc du carnaval, qui elle ne subira pas de transformation urbanistique au moment de ce pontificat. La colonisation se fait dans cette zone des collines. C'est l'image donc d'une nouvelle Jérusalem, ville céleste présentée comme une réalité spirituelle, à forme urbaine, pensée de manière globale, cohérente, ordonnée, avec ses murs, ses portes. Et donc une concrétisation dans la réalité topographique romaine, qui correspond au rejet de cette Babylone, qui est le centre commercial, financier, bancaire, où il y a une population plus mélangée dans la plaine. On peut faire une lecture chrétienne de cet urbanisme. L'image de la ville construite par Sixte Quint réalise celle de la ville imaginée par le parcours éphémère de la procession. Et de manière constitutive, l'urbanisme nouveau de Sixte Quint est fondé sur ce qu'on a appelé l'exorcisme de la croix. Le pèlerinage est l'exaltation du chemin de croix dans son esprit, et cet objectif est concrétisé par ce que je vous disais, donc ces grandes rues qui définissent une grande croix, comme ça. Et d'autre part, le pape Sixte Quint fait planter des croix, surtout les obélisques qu'il fait dresser un peu partout, sur les colonnes, colonnes antiques, colonne Trajane, colonne de Constantin, et qui, de cette façon, christianisent les colonnes antiques. Et les rues qui sont aménagées pointent sur des églises. Il y a un urbanisme aussi esthétique avec des débouchés sur des églises. Donc une signification symbolique et fonctionnelle à la fois. Je coupe un peu pour aller plus vite. J'espère que ce n'est pas trop allusif. Alors, tout ce système de Sixte Quint d'urbanisme est centré sur cette basilique de la Vierge de Sainte-Marie-Majeure, qui est un centre qui équivaut à une sorte de création du monde. Et cette basilique est très importante au moment où se développe le culte de la Vierge, mais c'est aussi une chapelle palatine et un mausolée pour Sixte Quint, qui y aura son tombeau, et d'autres papes par la suite, comme Paul V par exemple, qui aura aussi son tombeau. Et je vous fais remarquer que c'est proche du Quirinal, le Quirinal qui est par ici, sur la colline du Quirinal, où est installée la résidence à l'époque du souverain pontife au palais du Quirinal, qui ensuite sera récupéré par le roi au moment du royaume d'Italie, puis par le président de la République. Donc, le centre du pouvoir, centre religieux, centre politique, dans cette zone de l'Esquilin, qui était déjà marquée par cette église de Sainte-Marie-Majeure, qui n'a pas été créée pour l'occasion, mais qui est amplifiée et qui sera ensuite encore agrandie et réaménagée au XVIIIe siècle. En même temps, le pape est attiré et il incite à la colonisation dans cette zone des collines pour des raisons d'hygiène et de santé, et toute l'aristocratie romaine, à sa suite, va venir y construire des villas pour des villégiatures d'été en particulier, pour monter dans la ville basse qui est humide et chaude en été. Et ce rôle de centralité est bien mis en évidence par un certain Bordino. Bordino, c'est un père de la congrégation de l'oratoire, donc toujours cette même congrégation de Saint-Philippe Neri, le promoteur de ce pèlerinage. Et ce Bordino a écrit une vie de Saint-Philippe Neri, qui est en fait une hagiographie, et livre qui est publié en 1588, où il montre bien, je voudrais vous montrer une image qui est dans ce livre, gravure qui vous montre le plan régulateur de la ville, comme il est dit, in sideris forma, c'est-à-dire en forme stellaire. Et donc Bordino va dessiner une étoile à cinq branches, dont toujours Sainte Marie Majeure, ici, et le centre comme un pivot destiné à valoriser la périphérie, qui est la zone plus pas encore habitée. Et c'est donc le point de départ de cette colonisation du zone qui était suburbaine et qui va devenir une zone urbaine. Centre symbolique en une paraphrase urbanistique de la Madone qui est le principe générateur. La basilique qui lui est consacrée devient centrale, fondement, nœud charnière dans le dispositif urbain comme elle l'est dans le système sacral du culte marial. De plus, dans la réalité concrète et spatiale de l'espace urbain, l'église de Sainte-Marie-Majeure occupe une position de pivot par rapport aux autres basiliques qui étaient plus excentrées. Vous vous souvenez de ces basiliques, Saint-Jean-de-Latran, Saint-Paul hors les murs, plus loin vers les murs ou au-delà des murs. Donc, elle devient au centre de cette nouvelle ville. Alors, si pour les décideurs politiques, les choix urbanistiques répondent à des raisons pratiques et de fonctionnalité, il ne faut pas minimiser l'importance de l'autre objectif, la possibilité de fournir une image symbolique à qui parcourt les étapes mystiques. Et c'est Marcello Fagiolo qui, en une belle étude, a parlé de cet urbanisme en termes d'urbanisme liturgique. Et effectivement, dans le dessin de ce pape Sixte Quint et dans les projets et les réalisations de son architecte Domenico Fontana, ce pèlerinage des sept églises rejoint le modèle stellaire. Alors, Rome, ville capitale, religieuse et politique d'un État centralisé, assume l'héritage de l'ours antique au centre de l'Empire romain et se présente dans une rhétorique de la persuasion fondée sur la mobilité, comme la Nouvelle Jérusalem au centre de la chrétienté. Et elle vise à se substituer au pèlerinage à Jérusalem, qui est alors en déclin. C'est bien une Rome chrétienne cohérente et ordonnée qui est fondée par ce pèlerinage aux sept églises. La croix en est le symbole, multipliée sur toutes les colonnes, sur toutes les obélisques, alors que le parcours des sept églises exalte le chemin de croix. Merci de votre attention.